Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés, on vous accompagne pour la suite de cette séance, bien sûr en direct jusqu'à 18h à la radio et à la télé. Séance où il faut suivre certaines valeurs intéressantes, Atos notamment, l'État prêt à reprendre les activités stratégiques, peut-être jusqu'à 1 milliard d'euros, le montant des rachats par l'État. On va suivre ça, bien sûr, on parlera de ce titre Atos cet après-midi en nette progression. On parlera aussi de Vivendi après la publication de son chiffre d'affaires. Et en Europe, à Amsterdam, Philips qui résout un conflit, un litige aux États-Unis. Philips s'envole littéralement sur le marché néerlandais. Mais d'abord, notre vol Paris-New York, c'est ce billet gratuit qu'on vous offre chaque jour pour effectivement s'envoler tous ensemble vers l'actualité américaine et New York en direct. C'est l'ouverture là-bas à Wall Street, un peu plus de 15h32, 9h32 à New York. Et la cloche retentit, vous l'entendez. Nos experts sont là, USA Today, John Plassard. Bonjour John. Depuis les bureaux de Mirabeau, Étienne aussi est avec nous, depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne. Comment se passe ce début de séance aux États-Unis, Étienne?
Eh bien écoutez, c'est du vert sur les trois indices américains, avec notamment un indice Nasdaq qui continue de surperformer, hein, comme la semaine dernière. Hein, il a gagné 4,2% la semaine dernière, le Nasdaq, meilleure semaine depuis novembre dernier. Là, il grappille 0,6% et retrouve les 16 000 points. Plus 0,3% pour l'indice Dow Jones, au-delà des 38 300 points. Quand le S&P 500 de son côté gagne 0,4% au-delà des 5100 points, semaine très importante avec de nombreuses publications d'essais magnifiques, avec la Fed également. En attendant, vous avez Apple qui soutient très clairement la tendance. Nous en reparlerons dans un instant avec John. La valeur soutient l'indice Nasdaq grâce à une hausse de 2,7%. Amazon également gagne 1,9% et puis Tesla gagne plus de 10% aujourd'hui, et le groupe est à nouveau à la porte des 600 milliards de valorisation boursière. Du côté des taux, vous avez l'euro-dollar qui tente de franchir les 1,07, mais c'est une nouvelle fois compliqué, 1,0697. Et puis sur le front des taux, ça se détend avec un 10 ans américain qui perd 3 points de base à 4,64, quand le 2 ans de son côté est stable à 4,98. Et donc Wall Street qui ouvre dans le vert pour commencer cette semaine avec 3 indices américains qui gagnent entre 0,3 et 0,5%.
Et John avec nous en direct depuis les bureaux de Mirabeau. Bonjour John, ravi de vous retrouver pour ce début de semaine. Alors, en Europe, enfin, sur la plupart des marchés européens, pas tous, ce sera la semaine en 4 jours. Là. Oui, la semaine en 4 jours, parce qu'il n'y aura pas de séance le 1er mai. En revanche, en Suisse, le marché suisse que vous connaissez bien, comme aux États-Unis d'ailleurs, là, ce sera une semaine complète, effectivement, et même la semaine de tous les dangers à Wall Street. Pourquoi la semaine de tous les dangers, John?
Bah écoutez, on va avoir tellement d'événements, Guillaume. Demain, c'est la confiance du consommateur aux États-Unis. Mercredi, c'est la réunion de la Fed. On a en plus de la réunion de la Fed que tout le monde attend, les PMI d'avril et l'ADP de l'emploi. Jeudi, on aura la balance commerciale et les commandes industrielles. Et vendredi, l'emploi américain d'avril. Et vous savez que ça fait depuis plusieurs mois qu'on attend une baisse des créations d'emplois. Là, on en attend 250 000 contre 303 000. Créations d'emplois le mois précédent en mars, mais à chaque fois on a été surpris à la hausse et le taux de chômage devrait être de 3,8%. Mais qu'est-ce qu'il va falloir suivre aussi? Ben, c'est les entreprises américaines, Apple, Amazon, 3M, Coca-Cola, McDonald's, PayPal, AMD, Mastercard, Pfizer, Amgen, Moderna et Novo Nordisk, notamment. Toutes ces entreprises et toutes ces informations macroéconomiques vont dicter cette semaine qu'on peut considérer comme une semaine de tous les dangers, Guillaume.
Ah oui, effectivement, donc Apple, Amazon dans la tech, et puis toujours le match de l'anti-obésité, ça va être intéressant cette semaine, parce qu'on aura, alors vous le disiez, la publication de McDonald's ou encore Coca-Cola, ce sera demain, McDo, Coca, bon, l'anti-obésité, compliqué. Et en face, justement, les spécialistes des médicaments anti-obésité, Eli Lilly et Novo Nordisk, qui tous les deux vont publier. Ce sera intéressant, ce match, effectivement, autour de l'anti-obésité, cette semaine, aux États-Unis. Puis cette semaine aussi nous amènera dans le mois de mai, après-demain, première séance du mois de mai. Il y a cet adage boursier bien connu, sell in May and go away. Est-ce qu'il faut donc parier, oui, sur une baisse des marchés au mois de mai, John?
Bah écoutez, c'est une très bonne question parce que tout le monde en parle et tout le monde va en parler le 1er mai. Alors on essaye d'anticiper un petit peu ces mouvements et on voit que depuis 1990, bah tenez-vous bien, le S&P 500 entre mai et octobre a gagné en moyenne 2%. Alors que si vous regardez entre novembre et avril, donc les 6 autres mois de l'année, c'est plus 7%. Donc on voit ici que historiquement, entre mai et octobre, eh bien, les marchés ont 80% de chances de progresser, mais un peu moins que dans les autres mois, les mois d'hiver. Mais ce qui est très intéressant ici de regarder, c'est que normalement, durant ces fameux mois de mai à octobre, eh bien, c'est plutôt les valeurs défensives qui s'en sortent, alors que entre octobre, novembre et avril, eh bien, c'est plutôt les valeurs cycliques et les valeurs technologiques. Et donc, c'est très intéressant de regarder que souvent, on a des changements, non pas des ventes sur le S&P 500, mais plutôt des changements dans l'allocation sectorielle aux États-Unis. C'est quelque chose qu'il faut regarder de très, très près. Et il y a notamment des fonds qui jouent cette thématique du sell in, May and go away, non pas en vendant les valeurs, mais en changeant les valeurs dans les portefeuilles.
Effectivement, à surveiller. Donc, et la campagne américaine, vous la faites vivre chaque jour. On est à 192 jours désormais de cette présidentielle. Et vous nous alertez, John, sur la cote de popularité de Joe Biden. Il est, Joe Biden, l'un des présidents les plus détestés de l'histoire américaine.
Oui, ça paraît assez fou, ça continue. Il a atteint ce week-end la cote d'approbation la plus basse de son mandat. Il est à 38,7%. C'est le plus mauvais score depuis les 9 derniers présidents. Il faut rappeler ici que le président qui était le plus détesté avant était George W. Bush. Il avait 41,8% d'approbation. Et celui qui était bien le préféré des Américains, c'était Eisenhower avec 73,2%. Alors évidemment, Guillaume, vous allez me dire, Trump, où est-ce qu'il est, Trump, au 13e trimestre du mandat? Eh bien, il était à 46,8% contre, je le répète, 38,7% pour Joe Biden. Donc, bien évidemment, ça va être un chiffre qu'on va continuer à suivre, puisque on rappelle quand même que les élections, c'est pour bientôt aux États-Unis.
Effectivement, ça approche. Et vous nous faites vivre cette campagne donc au jour le jour sur ces États-Unis qu'on suit dans USA Today. 15h30, l'ouverture à Wall Street en direct. Et ça se passe bien. Après quoi? 8 minutes de cotation désormais. Les indices sont dans le vert. Le S&P gagne 0,3%. Le Nasdaq gagne aussi 0,4%. Et un titre en hausse, Tesla, nette hausse après la visite d'Elon Musk en Chine. Une visite d'à peine 24 heures dont Elon Musk repart victorieux. On peut le dire comme ça, John?
Oui, tout à fait. C'est une énorme victoire pour Tesla. Il faut rappeler une chose ici, qu'il y a eu un accord qui a été signé avec Baidu, qui est la principale société chinoise de recherche sur Internet. Et cet accord concerne les licences cartographiques pour la collecte de données sur les routes publiques chinoises. Eh bien, tenez-vous bien, Guillaume, ça va aider le système de conduite automatique ou qui aide à la conduite qui s'appelle FSD, le Full Service Driving, que Tesla va imposer en Chine. Et vous savez que la Chine, c'est très très important pour Tesla. Pourquoi? Parce que c'est 23% du chiffre d'affaires en 2023. Et je vous rappelle quand même qu'on a parlé tout au long de ces semaines de la concurrence qu'il y a de plus en plus avec les acteurs sociaux comme Xiaomi ou Huawei. Et effectivement, on a dit que Tesla perdait des parts de marché, mais ici, avec sa licence et son système d'aide à la conduite automatique, Tesla va engranger énormément d'argent. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour Elon Musk et bien évidemment pour Tesla.
Et le titre Tesla gagne 13%. Oui, plus 13% après donc cette visite victorieuse d'Elon Musk, effectivement, en Chine, qui parvient à franchir les obstacles réglementaires qui, jusqu'ici, l'empêchaient de déployer son logiciel de conduite autonome FSD en Chine. Et bien, ça y est, il a obtenu gain de cause et donc ce titre Tesla gagne 13%. Autre tech qui cartonne, Étienne en a dit un mot, Apple, qui fait un pas de plus dans l'intelligence artificielle, ça plaît au marché, le titre Apple gagne plus de 3% aujourd'hui.
Oui, alors on se souvient, il n'y a pas très longtemps, Apple avait déclaré qu'il n'allait pas imposer son propre système d'intelligence artificielle parce qu'il avait dit quasiment officiellement qu'il était en retard sur d'autres acteurs. Et donc ici, apparemment, il faut que ce soit encore confirmé, mais il va s'allier à OpenAI qui est en partie détenu par Microsoft, et OpenAI pourrait être intégré dans tout ce qui est écriture automatique et notamment sur Safari. On imagine ici que ce serait une avancée majeure pour Apple. Maintenant, la question, bien évidemment, que se posent les analystes sur la tech, c'est que est-ce que ceux qui ont les iPhones vont adopter ce type d'intelligence artificielle et cette aide à la recherche, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qui veulent seulement rester sur des produits Apple. Donc il y a des interrogations quand même, même si c'est une avancée majeure qui est saluée aujourd'hui sur les marchés financiers.
C'est vrai, plus 3% Apple. En revanche, Alphabet, la maison mère de Google, perd 2,5% ce titre Alphabet, alors que Google annonce son intention d'investir 3 milliards de dollars dans des centres de données dans l'Indiana et en Virginie.
Exactement, c'est évidemment l'essor de l'intelligence artificielle qui va accroître la demande pour le cloud, la demande d'informatique dématérialisée. On sait que c'est quelque chose à la mode ces derniers temps, puisque lors de la publication des résultats d'Alphabet et de Microsoft, on a vu qu'il y avait une très très forte demande pour le cloud, initiée par tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle. Alors le marché n'aime pas tellement aujourd'hui la nouvelle parce que les investisseurs estiment que c'est un peu cher payé pour quelque chose qui fondamentalement n'était pas extrêmement urgent comme annonce à faire, et donc c'est pour ça qu'on perd un peu sur le titre aujourd'hui.
Effectivement, USA Today chaque après-midi, l'ouverture des marchés américains, et si vous avez des questions sur vos portefeuilles, n'hésitez pas ces questions à nous les envoyer. Dans quelques minutes, Culture Bourse, Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondront vos questions en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître sur vos écrans tout au long de l'après-midi, ou encore par mail. Vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Un dernier mot en dessert sur le dessert sera des pizzas aujourd'hui, John, sur Domino's Pizza qui a publié ses résultats, son chiffre d'affaires, c'est finalement un peu mieux qu'attendu pour Domino's Pizza.
Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant de noter que la demande a été dopée et tirée par l'amélioration des programmes de fidélisation et d'autres offres promotionnelles. On se souvient aussi que Domino's Pizza, en septembre, avait fait un accord avec Uber Eats, ce qui a permis de relancer la demande de livraison. Et on voit ici qu'à un magasin comparable, les ventes sont meilleures qu'attendues, 5,06%, alors que le consensus attendait 4,04%. Donc c'est aussi des résultats qui sont très bons pour Domino's Pizza, malgré le fait, on en parlait avant, que c'est plutôt des aliments dont les ventes pourraient baisser face à l'arrivée de produits d'Eli Lilly ou évidemment de Novo Nordisk sur le GLP-1.
Effectivement, et GLP-1, donc les produits anti-obésité, on en reparlera cette semaine. Demain, Eli Lilly publie ses résultats. Jeudi, ce sera au tour de Novo Nordisk. Merci beaucoup. John Plassard, USA Today, avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Wall Street a ouvert légèrement dans le vert. Début de semaine plutôt tranquille avant la Fed. Faut pas l'oublier, la Fed. Mercredi soir, décision politique monétaire. Le S&P gagne 0,1%. Le CAC vient de basculer très, très légèrement dans le rouge. Et puis la France absoute par les agences de notation. Fitch et Moody's maintiennent la note de la France. La France absoute. Et sur les marchés, le 10 ans français, quand même encore un peu au-dessus de 3%, 3,01 en ce moment. 15h44, voici la Bourse Cash. Didier Rabattu nous accompagne pour Lombard-Odier IM. Bonjour Didier.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous voulez dire aujourd'hui, Didier, leurs 4 vérités au marché. Est-ce que vous êtes sûr?
Si vous voulez, oui.
Pour vous, et c'est le message que vous venez aujourd'hui délivrer au marché, aux investisseurs, pour vous, on est bien face au grand retour des mal-aimés de la bourse, le secteur des mines et la Chine également. Et c'est peut-être le début de leur comeback. Ce propos, ce constat, vous l'assumez, Didier?
Absolument.
Le retour des mal-aimés en bourse. Le secteur des mines en bourse et la Chine, effectivement, qui retrouvent une forme de surperformance, qui font leur grand retour. Il n'y a pas qu'Apple et la Fed à suivre cette semaine. Il y a aussi, effectivement, ce flanc de la montagne dans l'obscurité. Le flanc obscur existe autant que le flanc dans la lumière. Et il ne faut pas négliger la Chine, il ne faut pas négliger ce retour en grâce également du secteur minier en bourse. Vous y voyez peut-être le signe d'une tendance amenée à durer, éventuellement, Didier?
Oui, la première chose, c'est que les supports, donc des métaux précieux, donc des minières, que sont l'or, l'argent et le cuivre, ont très bien fonctionné sur les dernières semaines. J'imagine que vous l'avez relaté, l'or est pas loin des plus hauts, l'argent est en hausse d'une vingtaine de pourcents, le cuivre a très bien fonctionné. Or, les minières qui transforment ces trois matières, elles sont très très en retard par rapport à la matière première. Et ce qu'on a pu voir sur les deux dernières années, c'est qu'en dépit de la hausse de l'or, de l'argent et du cuivre, les revenus et les profits montaient peu rapidement. Et la principale raison, c'était que la production en volume était en général trop faible, il n'y avait pas assez de production. Et la deuxième chose, c'est que les coûts, qui sont principalement le diesel et les frais de personnel, montaient trop rapidement à la suite du Covid. Donc les résultats n'ont pas été très bons. En fait, là, il y a deux data points qui sont assez importants, qui se sont passés. Le premier, c'est les résultats de Newmont, qui est la plus grosse société d'exploitation d'or, qui a eu des résultats bien meilleurs que prévus. Puis la deuxième, c'est qu'on voit que le M&A, les fusions et acquisitions reviennent dans le secteur. Et vous avez sans doute noté BHP et Anglo American, BHP essaie de se rapprocher de Anglo American. Donc en général, quand on a un fort momentum qui se dessine sur les résultats, et c'est vrai que maintenant les revenus sont en train d'accélérer, sont prévus d'accélérer sur la fin de 24 et 25, et en même temps les coûts vont monter moins rapidement, donc le momentum de earnings va être bien meilleur, et qu'il y a du M&A en même temps, en général, surtout quand les valorisations sont basses, c'est très très bon. Et ça, c'est ce qu'on observe dans le secteur des minières. Et puis en fait, on observe la même chose en Chine, où la Chine, à cause de la crise immobilière, à cause d'un ralentissement du PNB, etc., etc., le marché chinois, plus des problèmes géostratégiques, les différents marchés chinois ont été assez faibles, et comme vous l'avez dit, ils recommencent à surperformer. En fait, les résultats publiés par les sociétés chinoises, en dépit d'une croissance économique qui est mauvaise, sont finalement assez bons. Et donc, comme le gouvernement ou le Parti communiste est en train d'essayer de relancer la consommation par différentes mesures, que ce soit pour la consommation, les motos, les voitures, etc., etc., on voit que la croissance va se réenclencher très probablement sur le marché chinois. Et on sait très bien qu'en fait, la Chine et les minières, il y a une corrélation qui est assez forte entre les deux. Donc oui, je pense que ce sont deux groupes, un sectoriel, l'autre géographique, qui devraient commencer à bien fonctionner.
La Chine et le secteur minier en bourse. Et Étienne qui nous appelle 15h47 depuis effectivement le cœur de cette séance, la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Étienne, début de semaine timide sur le CAC 40. On trouvera bien sûr Didier dans un instant, mais le CAC est en légère baisse là à l'instant.
Et oui, quasiment stable, et il est même sur les plus bas niveaux de la séance, ce CAC 40, alors qu'il était au-delà des 8100 points ce matin. Il est à 8084 points. Alors, ce qui est marquant, ce sont les volumes d'échanges. Alors, le mois de mai et ses ponts n'ont pas encore commencé, mais là, vous avez moins d'un milliard négocié dans l'indice parisien, donc c'est vraiment très calme pour commencer cette semaine. L'indice qui est pénalisé par le secteur du luxe, qui est en retrait, Hermès perd 1,9%, LVMH moins 1,7%, Airbus, qui a été pénalisé la semaine dernière après sa publication, continue de perdre du terrain avec une baisse d'1%. À noter, on fera les comptes demain, mon cher Guillaume, pour la dernière séance du mois d'avril, mais que pour l'instant, eh bien, le mois d'avril est négatif, avec une perte de 1,4% en données mensuelles, le tout après 5 mois consécutifs dans le vert. Donc vous avez, eh bien, à l'image de la séance d'aujourd'hui, une consolidation qui continue de s'opérer avant les rendez-vous majeurs que vous avez cités avec John, à commencer bien sûr par la Fed mercredi soir.
Effectivement, les publications qui ne suffisent pas à rattraper ce mois d'avril. Didier, quelle lecture faites-vous là des publications? On avance bien désormais dans la saison aux États-Unis, mais en Europe aussi où ça a bien accéléré. Est-ce que vous êtes plutôt pour l'instant rassuré ou plutôt déçu?
Bon, la réalité, c'est qu'elles sont plutôt bonnes, puisque 80% des sociétés à l'échelle globale ont plutôt eu des résultats qui étaient au-dessus des attentes. Je crois que la moyenne des résultats au-dessus des attentes est de 8%, donc c'est plutôt des très très bons résultats. Et ce qui est intéressant par rapport au trimestre précédent, c'est que ça s'est relativement bien réparti à travers tous les secteurs. C'est-à-dire que sur les deux dernières années, il y avait des secteurs comme la technologie ou la communication services qui étaient très très forts, et puis il y en avait d'autres qui peinaient. Là, je crois que c'est vraiment across the board, les résultats sont relativement bons, donc c'est plutôt une bonne chose. Et quand on regarde les prévisions des analystes, la réalité, c'est qu'ils ont augmenté pour l'année 24 dans son ensemble, leurs estimés d'environ 2%. Donc pour le moment, la tendance est plutôt bonne pour le moment.
Quelle est la publication que vous allez particulièrement suivre cette semaine?
Je crois que ça a été précisé par la personne d'avant. Vous avez Amazon, ouais. qui est relativement importante. Qu'il va falloir suivre. Plus, vous avez raison, il y a deux, trois groupes pharmaceutiques. Il y a encore quelques grosses sociétés qui vont publier, mais c'est vrai que Amazon, c'est un peu ce qu'était Walmart avant, le bellwether de l'économie américaine. Donc, celle-là va être très suivie, oui.
Demain soir, après bourse, Amazon qui va annoncer ses résultats, effectivement. Puis jeudi, on aura bien sûr Apple. Et puis une dernière question aussi sur la controverse du moment. Total Energy qui n'exclut pas de préférer Wall Street à la Bourse de Paris. En tout cas, faire de Wall Street sa place de cotation principale. Peut-être parce que justement, l'ESG bloque trop les investisseurs en Europe, les Européens qui ont tendance à vendre le titre Total Energy alors que les Américains, eux, l'achètent. Si bien que la part des Américains en capital progresse de plus en plus. Les Américains sont bientôt majoritaires, en tout cas, ils prennent le chemin pour devenir peut-être à court terme majoritaire au capital d'un groupe comme Total Energy. Conséquence d'une ESG peut-être plus stricte, trop stricte ici en Europe par rapport aux États-Unis, Didier ?
Alors je crois qu'il y a deux sujets. Hein. Sur le sujet de l'ESG, c'est vrai que l'ESG, qui sont l'analyse des pratiques des sociétés, et donc qui sont des analyses non financières des sociétés, je crois qu'il y a plus l'analyse est plus dure en Europe qu'elle peut être aux États-Unis. En revanche, je pense que là il y a un peu de confusion, c'est que l'ESG n'est pas la soutenabilité. Je crois que le monde dans son ensemble va devoir faire face à une transformation des systèmes économiques, et ça c'est une certitude, et c'est pas des pratiques, c'est pas lié à l'ESG. Il va falloir d'un côté transformer, donc électrifier notre économie. Et ça, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en Chine ou en Asie, et c'est en train déjà de se passer. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir transformer nos systèmes alimentaires et nos systèmes de consommation. Et quand vous transformez l'énergie, les systèmes de consommation et les matériaux, vous avez plus ou moins 80% ou 90% de notre PNB. Et ça, ce sont des choses qui se passent en Europe, aux États-Unis et en Chine. Je pense que le problème, c'est que l'Europe l'a regardé de manière très idéologique et régulatoire. Les États-Unis et les Chinois l'ont regardé de manière très capitale, en faisant venir du capital, en utilisant l'arme fiscale et en utilisant en association l'industrie et la technologie. Ce qu'on n'a pas fait en Europe. Et je pense que ça, c'est le réel problème de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe régule pendant que les États-Unis et la Chine injectent du capital, injectent de la technologie. Évidemment, vous connaissez l'Inflation Reduction Act aux États-Unis qui attire un triard de capital. Même chose en Chine avec le gouvernement qui est très pro le développement de l'électrification. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand on parle d'ESG. L'ESG, c'est vrai, mais je pense que l'ESG est un micro-sujet. Le vrai sujet aujourd'hui pour l'Europe, c'est qu'elle est en perte de vitesse sur l'association industrie-technologie liée à un développement très fort de la soutenabilité qui devrait amener une transformation de nos systèmes économiques.
Et Total Energy qui n'exclut pas de faire de Wall Street sa place principale de cotation, on en parlera à nouveau. On l'a déjà beaucoup fait vendredi, bien sûr, on était sur la balle. Et ben on le reste aujourd'hui, on en parlera notamment à partir de 17h dans le club et puis aussi au cœur du portefeuille BFM Responsable. Tiens, le titre Total Energy n'est pas présent dans ce portefeuille BFM Responsable. Nos gérants essaieront de justifier ce choix. Voilà. Et donc, est-on un peu trop strict en matière d'ESG en Europe ? Question qu'on leur posera aussi. Ce sera à partir de 16h20. Merci beaucoup Didier de nous avoir accompagnés. Didier Rabattu depuis les bureaux de Lombard-Odier IM. Le CAC 40 est en repli. On perd en ce moment à Paris 0,1%. Et on vous interroge sur nos réseaux sociaux. Notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. N'hésitez pas à vous abonner. La semaine sera dense. Et la question qu'on vous pose, c'est, à vos yeux, quel sera le principal rendez-vous à suivre cette semaine ? Celui qui pourrait le plus impacter le marché ou vos choix d'investissement ? Est-ce que ce sera la Fed mercredi soir ? Est-ce que ce sera la publication d'Apple ? Jeudi, la publication d'Apple. Est-ce que ce sera celle de Stellantis à suivre aussi cette semaine ? Ou est-ce que finalement, ce qui compte le plus, c'est le 1er mai ? Et cette journée fériée, la Bourse de Paris d'ailleurs sera fermée mercredi, la semaine en 4 jours là sur les marchés. On vous pose cette question donc sur nos réseaux, n'hésitez pas à continuer de répondre et nous laisser surtout vos arguments en commentaire. On rebondira dessus dans un peu moins d'une heure avec la famille BFM Bourse.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Culture Bourse chaque jour, où vais-je ? Pour savoir où aller en bourse, mieux vaut comprendre déjà où vous en êtes et d'où vous venez. C'est Culture Bourse. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, si vous avez des questions, eh bien vous pouvez nous écrire. Et pour ça, vous le savez désormais, vous avez deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous regardez à la télévision.
Et aujourd'hui, une question d'un auditeur sur l'immobilier. Comment investir dans l'immobilier en bourse ?
Et c'est François qui nous a écrit. Il veut savoir si la potentielle remontée de foncières comme Unibail et Klépierre dépendra de la baisse des taux des banques centrales. Bertrand Lamiel pour Ports en Part Gestion est avec nous. Bonjour Bertrand.
Bertrand, êtes-vous là ?
Bonjour.
Alors déjà, peut-être Bertrand, pour commencer, est-ce que pour vous, les baisses de taux qu'on anticipe, elles peuvent vraiment redonner de l'élan aux foncières ?
Alors, une façon de répondre, c'est de regarder ce qui s'est passé dans la remontée des taux. Et donc, on a eu, c'était complètement délétère pour les foncières. Hein, on est dans, si on dézoome un petit peu, c'était compliqué à partir des années 2020, à partir du moment où on a eu l'émergence du télétravail. Donc, pour tous ceux qui louaient des bureaux ou même les surfaces commerciales qui étaient moins fréquentées, moins visitées, c'était de Caribancy là. Et après la remontée des taux, finalement, ça n'a été que la cerise sur le gâteau si on peut se permettre l'expression. Donc voilà, là, on voit que c'est en train de repartir et probablement sur des anticipations de baisse des taux. Donc il y aura une corrélation assez forte entre une prochaine baisse des taux et une renaissance pour les valeurs foncières.
Et alors, du coup, Bertrand, très concrètement, on fait quoi avec ces foncières en portefeuille ?
Alors, nous, on pense, enfin, les dossiers comme Unibail, objectivement, c'est bien reparti. Alors, ça peut mettre encore un petit peu de temps, parce que, la baisse des taux, on n'y est pas, loin s'en faut. On a même eu une augmentation des taux longs dernièrement. On anticipe que potentiellement, on pourrait avoir une baisse des taux courts de la BCE, mais ce n'est pas fait. Donc, attention, on est dans cette période qu'on appelle de controverse, où les sociétés sont en train d'essayer de rentrer dans une tendance haussière. C'est une période qui, peut apporter des gros bénéfices, mais qui est fragile. On a besoin de confirmation avec des trimestriels. Or, on voit que sur la sphère de l'immobilier, on a eu par exemple, c'était ICAD la semaine dernière, me semble-t-il, il y a 15 jours, qui nous a annoncé que les commandes étaient en baisse de 16%. Donc, on voit bien que tout n'est pas très, très, très clair sur le segment de l'immobilier. Pour autant, il y a une telle décote sur le sujet que quand on regarde des ratios de valorisation et quand on regarde des ratios de valorisation futurs, franchement, on est sur des dossiers purement value. Donc, ça peut être intéressant de les positionner dans le portefeuille. Surtout qu'au moment où on aurait une baisse des taux, il y aura probablement des secteurs qui ont bien marché qui vont s'arrêter. Donc Unibail, c'est une solution. Klepler, on est un peu moins fun, c'est un peu moins mûr. Et puis, n'oublions pas que ces deux dossiers-là ne peuvent pas être intégrés dans les PEA, puisque ce sont des SIIC. Donc si vous voulez mettre une foncière dans votre PEA, il y a une solution, par exemple, c'est d'aller chercher une foncière allemande comme Vonovia. Pareil, donc, encore une fois, c'est une petite touche dans le portefeuille. C'est encore beaucoup trop tôt pour tout confirmer, mais voilà, ça peut être une solution.
Une idée, donc. Et Bertrand Lamiel qui va rester avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes, Bertrand, pour parcourir cette séance, voir qui gagne, qui perd sur la séance du jour, notamment à la Bourse de Paris. Alors, Culture Bourse, c'est les réponses à vos questions, mais pas que. C'est un vrai moment de culture. Aujourd'hui, Julie, vous revenez sur une méthode pas banale que peuvent utiliser les traders dans le cadre de leurs analyses techniques.
5, 8, Julie, 13.
Julie, vous êtes avec nous, là. On est dans le Culture Bourse. Vous comptez quoi comme ça ?
Ah, pardonnez-moi. Excusez-moi, Guillaume, je suis bien avec vous. J'étais juste en train d'essayer de comprendre la théorie des nombres de Fibonacci. Alors, pourquoi je suis en train de faire ça ? Parce que figurez-vous que cette théorie, dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres précédents, elle est parfois utilisée par les traders pour effectuer leurs analyses techniques et, in fine, pour servir leurs arbitrages de portefeuille. Alors, je vous la fais simple, hein. Tout repose sur l'idée que les mouvements peuvent être prédits en utilisant ces ratios, donc des pourcentages calculés selon cette fameuse suite de nombres. Et pour les traders, eh bien, ça peut être un moyen d'identifier des niveaux de support et de résistance et donc d'anticiper d'éventuels retournements de marché.
Ça peut être un moyen.
Oui, parce que ça ne fait pas tout à fait l'unanimité. Certains traders affirment qu'il est particulièrement efficace et il y en a d'autres, à l'inverse, qui considèrent que les mouvements des cours sont aléatoires, ils sont donc imprévisibles et donc, eh bien, il est difficile de prédire avec certitude les tendances à partir de simples ratios mathématiques.
La théorie des nombres de Fibonacci, effectivement, malgré les réserves dont vous venez de nous faire part, cette théorie, elle est encore largement utilisée.
Alors disons qu'en complément d'autres observations, certains analystes techniques estiment que cette théorie du nombre, eh bien, elle leur permet de prendre de meilleures décisions. Donc c'est tout sauf une méthode infaillible pour investir en bourse, mais combinée à d'autres techniques, ça représente potentiellement un outil de mesure à considérer et ça peut se révéler utile lorsque le marché affiche une tendance claire.
Effectivement.
54, 55.
C'est fini, Julie.
Ah, pardon,
ça y est, Culture Bourse, les courbes et la théorie des nombres de Fibonacci, Culture Bourse, les réponses à vos questions et la pédagogie financière grâce à Julie, ses talents de comédienne et ses experts. Merci Julie.
Merci Guillaume.
Et à demain pour nouvelles aventures. Le CAC 40 est en baisse, légère baisse, -0,16% en ce moment. On va se reconnecter à la séance du jour. Étienne Braque nous attend à la Tour Euronext. On se retrouve juste après la pause. Et puis aussi cet article consacré à nouveau à Total Energy qui envisage éventuellement de faire de Wall Street sa place de cotation principale. Alors peut-être, sauf que Total Energy aura bien du mal à intégrer le S&P 500, voire ne l'intégrera pas. Et on vous explique pourquoi dans cet article sur notre site BFM Bourse, à retrouver aussi sur bfmbourse.com. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.